Chapitre 31. Lundi 14 décembre, le matin. Simone est réveillée par la sonnerie du téléphone. Les rideaux sont ouverts et la chambre est baignée d'une lumière hivernale. Elle se demande si c'est Eric, puis elle comprend qu'il ne téléphonera pas, qu'il se réveillera aux côtés de Daniela ce matin et qu'elle est seule désormais. Elle a envie de pleurer. Elle décroche. Oui?
Simone, c'est Ylva. Ça fait des jours que j'essaie de te joindre.
Ylva semble très stressée. Il est déjà 10 heures. J'avais d'autres préoccupations, répond laconiquement Simone.
Ils ne l'ont pas retrouvé?
Non, répond Simone. Le silence s'abat. Quelques ombres défilent devant la fenêtre. Simone voit des écailles de peinture tomber du toit en tôle en face. Des hommes en habits orange vif grattent la toiture.
Désolé,
dit Ylva.
Je ne voulais pas te déranger.
Qu'est-ce qui se passe?
L'expert comptable revient demain. Il y a quelque chose qui ne colle pas et je n'arrive pas à réfléchir quand Noreen est là en train de cogner.
En train de cogner? Ylva fait un bruit impossible à interpréter.
Il est arrivé avec un marteau en plastique et il a décrété qu'il allait faire de l'art moderne,
explique Ylva d'une voix lasse.
Il a dit qu'il arrêtait les aquarelles et que désormais il chercherait à creuser l'art lui-même.
Eh bien, il devrait faire ça ailleurs.
Il a cassé le bol de Peter Dole.
Tu as téléphoné à la police?
Oui, ils sont venus et Noreen a bredouillé un truc sur sa liberté artistique. Ils lui ont dit de rester à l'écart, alors maintenant, il est en train de taper dehors.
Simone se lève et se regarde dans le miroir teinté du dressing. Elle a l'air maigre et fatiguée. Elle a l'impression que son visage a été brisé en 1000 morceaux, puis recollé. « Et Schulman ?» demande Simone. « Comment avance son expo ?» Ylva est tout excité.
« Il dit qu'il a besoin de te parler. »«
Je vais lui téléphoner. »«
Il veut te montrer quelque chose par rapport à la lumière. »
Elle baisse la voix.
Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe entre toi et Eric, mais...
On s'est séparés, dit Simone sèchement.
Parce que je crois vraiment...
Ylva se tait. Tu crois quoi? Demande Simone impatiemment.
Je pense que Schulman est amoureux de toi.
Simone croise son propre regard dans le miroir et sent un chatouillement inattendu dans le ventre. Il vaut mieux que je vienne, dit-elle.
Tu peux?
Il faut juste que je passe un coup de fil. Simone raccroche, puis reste assise au bord du lit un petit moment. Benjamin est en vie, c'est ce qui compte. Il est en vie, bien qu'il ait été enlevé depuis plusieurs jours. C'est très bon signe. Ça veut dire que le ravisseur n'a pas pour premier objectif de lui ôter la vie. Il a d'autres intentions et va peut-être demander une rançon. Elle fait une estimation rapide de ses ressources. Que possède-t-elle vraiment? L'appartement, la voiture, quelques œuvres d'art. La galerie, bien sûr. Elle peut emprunter de l'argent, ça va s'arranger. Elle n'est pas riche, mais son père peut vendre le petit chalet d'été et son appartement. Ils s'installeront tous ensemble dans un appartement en location, n'importe où, ce n'est pas grave, pourvu qu'elle récupère Benjamin, pourvu qu'elle retrouve son fils. Simone appelle de nouveau son père, sans succès. Elle laisse un court message disant qu'elle descend à la galerie, puis elle prend une douche rapide, se brosse les dents, met des vêtements propres et quitte l'appartement sans éteindre derrière elle. Il fait froid dehors, il y a du vent et la température est inférieure à 0. L'obscurité de ce matin de décembre est chargée d'une torpeur, d'un silence oppressant, une atmosphère de cimetière. Un chien court et traîne sa laisse dans les flaques. Dès son arrivée à la galerie, elle croise le regard d'Ylva à travers les portes vitrées. Pas de Noreen à l'horizon. Mais à terre, près du mur, elle voit un journal plié comme un chapeau de Napoléon. Une série de tableaux peints par Schulman renvoie une lumière verdâtre, des peintures à l'huile brillante, d'un vert aquarium. Elle entre. Ylva accourt et la prend dans ses bras. Simone remarque qu'Ylva a oublié de se teindre les cheveux en noir comme elle le fait d'habitude. Ses racines grises se devinent dans la raie du milieu, mais son visage est lisse et bien maquillé, sa bouche d'un rouge profond comme toujours. Elle porte une jupe culotte grise par-dessus des collants rayés noirs et blancs et de gros godillots marron.
« Ça va être superbe, » dit Simone en regardant autour d'elle. « Tu as fait un travail formidable. »«
Merci, »
chuchote Ylva. Simone avance jusqu'au tableau.
« Je ne les ai jamais vus comme ça, agencés de cette façon, » dit-elle. « Je ne les ai vus que séparément. »
Elle avance d'un pas.
« C'est comme s'ils s'épanchaient sur le côté. »
Elle passe dans l'autre pièce. Le bloc en pierre avec les fresques pariétales de Schulman est posé sur un présentoir en bois.
« Il veut mettre des lampes à l'huile ici, » dit Ylva. « Je lui ai dit que c'était impossible. Les gens veulent voir ce qu'ils achètent. »«
Non, c'est faux. »
Ylva rit.
« Alors Schulman aura ce qu'il veut ?»«
Oui, » répond Simone.
« Il aura ce qu'il veut. »
« Tu peux lui dire toi-même. »«
Comment ça ?»«
Il est dans le bureau. »«
Schulman ?»« Il a dit qu'il avait besoin de passer des coups de fil. »
Simone regarde en direction du bureau. Il va s'éclaircir la gorge.
« Je vais aller m'acheter un sandwich pour midi. »«
Déjà ?»«
Je me suis dit que... »
bredouille il va les yeux baissés.
« Vas-y alors. »
Simone est si angoissée, si ébranlée, qu'elle doit s'arrêter pour essuyer les larmes qui ont commencé à couler le long de ses joues avant de frapper à la porte et d'entrer. Schulman est assis derrière le bureau et mordit un crayon.
« Comment vas-tu ? » demande-t-il.
« Pas très bien. »
« C'est ce que j'ai cru comprendre. »
Un silence s'installe. Elle baisse la tête. La sensation d'être exposée, d'avoir été usée jusqu'à la part la plus fragile de son être, l'envahit. Les lèvres tremblantes, elle lâche.
« Benjamin est en vie. Nous ne savons pas où il est, ni qui l'a enlevé, mais il est en vie. »
« C'est une bonne nouvelle, » dit Schulman avec douceur.
« Quelle merde !»
chuchote-t-elle. Puis elle se détourne et essuie les larmes de son visage d'une main tremblante. Schulman caresse tendrement ses cheveux. Elle se dérobe sans savoir pourquoi. En réalité, elle aimerait qu'il continue, mais sa main retombe. Il se regarde. Il est vêtu de son costume noir léger, la capuche dépasse du col de sa veste.
« Tu portes ta combinaison de ninja ?» dit-elle en souriant malgré elle.
« Shinobi, le vrai mot pour ninja a deux significations, » dit-il. « Cela signifie « celui qui est caché », mais aussi « celui qui endure ».«
Qui endure ?»
C'est peut-être l'art le plus difficile qui soit.
Seul, c'est impossible pour moi, en tout cas.
Personne n'est seul.
Je n'en peux plus, chuchote Simone. Je vais m'effondrer. Il faut que je cesse d'y penser tout le temps, ça ne m'avance à rien. Je n'arrête pas de me dire, si seulement il se passait quelque chose, je pourrais me taper la tête ou aller au lit avec toi juste pour chasser cette panique qui m'habite.
Elle s'interrompt d'un coup.
Ce que je viens de dire, commence-t-elle. Tu as dû me prendre pour une... Je te demande pardon, Sim.
Tu choisis quoi, alors ? Aller au lit avec moi ou te taper la tête ?
Demande-t-il en souriant.
Ni l'un ni l'autre,
s'empresse-t-elle de répliquer. Entendant le ton de sa réponse, elle tente d'atténuer.
Je ne veux pas dire, j'aimerais bien.
Elle se tait de nouveau et sent son cœur s'emballer dans sa poitrine.
Quoi ?
Demande-t-il. Elle croise son regard.
Je ne suis pas moi-même. C'est pour ça que je me comporte de cette façon,
dit-elle simplement.
Je peux t'assurer que je me sens vraiment bête.
Elle baisse les yeux, sent son visage qui brûle et se racle un peu la gorge.
Je dois...
Attends,
dit-il en sortant un bocal transparent de son sac. De petites créatures qui font penser à d'épais papillons noirs bougent à l'intérieur. On entend un bruit sec derrière le verre embué.
Sim ?
Je voulais juste te montrer une merveille.
Il lui tend le bocal. Elle observe les corps bruns, la poudre des ailes qui s'étale sur le verre, les restes des chrysalides. Les papillons appuient leurs pattes griffues contre le verre et de leur trompe s'effleurent mutuellement les ailes et les antennes.
J'ai toujours pensé qu'ils étaient beaux quand j'étais petite,
dit-elle.
Mais c'était avant de les avoir vus de près.
« Ils ne sont pas beaux, ils sont cruels, »
sourit Schulman,
qui prend un air grave. Je pense que c'est à cause de la métamorphose.
Elle touche le bocal et frôle ses mains.
Tu crois que leur cruauté vient de la transformation?
Peut-être. Ils se boivent du regard.
Les catastrophes nous transforment, dit-elle avec hésitation. Il caresse ses mains.
Ainsi va la vie.
Mais je n'ai pas envie de devenir cruelle, chuchote-t-elle. Ils sont tout près l'un de l'autre.
Schulman pose délicatement le bocal sur la table.
Simone, dit-il en se penchant en avant, puis il l'embrasse furtivement sur la bouche.
Ses jambes flageolent, ses genoux tremblent. Schulman, sa voix de soie, la chaleur de son corps, l'odeur de sa veste douce, un mélange de sommeil et de draps, de fines herbes. Elle a l'impression d'avoir oublié la merveilleuse douceur d'une caresse, d'une main qui effleure sa joue et sa nuque.
Schulman la regarde, un sourire dans les yeux. Elle ne pense plus à fuir la galerie. Ce n'est sans doute qu'une façon d'échapper un court instant à l'angoisse qui martèle sa poitrine, mais ça ne fait rien.
Elle veut que ça continue encore un peu. Elle veut simplement pouvoir oublier toutes ces choses terribles.
Ses lèvres s'approchent des siennes et cette fois elle lui rend son baiser. Son pouls s'accélère et elle respire rapidement par le nez, sans ses mains autour de son dos, de ses reins, de ses hanches. Elle est submergée de sentiments, une chaleur intense l'envahit au creux des reins, un désir aveugle, éperdu, de le sentir à l'intérieur d'elle.
La puissance de son désir lui fait peur. Elle se dérobe, espérant qu'il ne voit pas à quel point elle est excitée.
Elle se passe la main sur la bouche, s'éclaircit la gorge, se détourne et tente rapidement d'arranger ses vêtements.
« Quelqu'un pourrait venir, » dit-elle.
« Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Schulman d'une voix dont elle perçoit la fébrilité.
Sans répondre, elle fait un pas vers lui et l'embrasse de nouveau. Elle ne pense plus à rien. Elle cherche sa peau à tâtons sous ses habits et sent ses mains chaudes sur son corps. Il lui caresse le bas du dos. Ses mains s'introduisent sous ses vêtements et se glissent vers sa culotte. En sentant à quel point elle est mouillée, il gémit et presse son pénis turgescent contre son pubis. Elle veut qu'il la baise ici, debout, contre le mur, contre le bureau, par terre, comme si rien d'autre n'avait d'importance, pourvu qu'elle arrive à oublier sa panique, ne serait-ce que quelques minutes.
Son cœur s'emballe, ses jambes tremblent. Elle l'attire vers le mur, et quand il la plaque et lui remonte les jambes pour la pénétrer, elle lui parle à voix basse, lui dit de le faire, de se dépêcher.
Au même moment, la clochette de la porte résonne.
Quelqu'un entre dans la galerie. Le parquet grince et il desserre leur étreinte.
« On va chez moi, » chuchote-t-il.
Elle hoche la tête, sent ses joues la brûler. Il se passe la main sur la bouche et sort du bureau. Elle reste un moment, attend, s'appuie sur la table, tremble de tout son corps. Elle arrange ses vêtements et, quand elle arrive dans la galerie, Schulman l'attend déjà à la porte.
« Bon appétit !»
dit Ylva. À peine assise dans le taxi qui les emmène à Maria Grand, Simone regrette.
« Je vais appeler papa, » se dit-elle, « et je lui expliquerai que je suis obligée de partir. » La seule pensée de ce qu'elle est en train de faire la rend malade. Elle se sent coupable, paniquée, désarçonnée.
Ils montent l'étroit escalier jusqu'au 5e étage. Tandis que Schulman ouvre la porte, elle fouille dans son sac pour trouver son portable.
« Il faut juste que j'appelle mon père, » dit-elle évasivement.
Il ne répond pas, entre le premier dans le vestibule terracotta et disparaît dans le couloir. Elle reste là, le manteau encore sur les épaules, et parcourt la petite pièce obscure du regard. Des photographies couvrent les murs et une niche ornée d'oiseaux empaillés court sous le plafond. Schulman revient avant qu'elle ait eu le temps de composer le numéro de Kenneth.
« Simone, » dit-il doucement, « tu ne veux pas entrer ?»
Elle secoue la tête.
« Juste un petit moment. »«
D'accord. »
Elle garde son manteau et le suit dans le séjour.
« On est des adultes. » « On fait ce qu'on veut, » dit-il en remplissant deux verres de cognac.
Ils trinquent et boivent.
« Ça fait du bien, » murmure-t-elle.
L'une des parois est une immense baie vitrée. Elle s'approche et regarde les toits couleur cuivre de cédermalm et la sombre face arrière d'une publicité lumineuse représentant un tube de dentifrice. Schulman arrive derrière elle et l'entoure de ses bras.
« Tu as compris que je suis fou de toi, » chuchote-t-il. « Je le suis depuis l'instant où je t'ai vu. »«
Sim, c'est juste que je ne sais pas ce que je suis en train de faire, »
dit Simone d'une voix rauque. « Tu es obligé de le savoir, » demande Schulman avec un sourire tout en l'attirant vers la chambre à coucher. Elle le suit, comme si elle avait toujours su que ça arriverait. Elle savait que Schulman et elle pénétreraient ensemble dans une chambre à coucher. C'était ce qu'elle désirait. La seule chose qui l'avait retenue, c'était qu'elle ne voulait pas être comme sa mère, comme Eric, une menteuse qui passe des coups de fil et envoie des SMS furtifs. Elle avait toujours pensé qu'elle n'était pas de celles qui trahissent, qu'elle était prémunie contre l'infidélité, et d'ailleurs, à cet instant, elle n'a pas du tout l'impression de trahir. La chambre de Schulman est sombre. Les murs sont recouverts d'une sorte de tissu de soie bleu profond qui drape également les fenêtres. Une faible lumière hivernale traverse en biais les fibres du tissu. Les mains tremblantes, elle déboutonne son manteau et le jette à terre. Schulman se déshabille et Simone voit combien ses épaules arrondies sont musclées, son corps couvert de poils noirs. Une ligne plus fournie de poils épais et bouclés remonte du pubis jusqu'au nombril. Il la regarde calmement de ses yeux doux et sombres. Elle commence à se déshabiller, mais brusquement, là, devant lui, elle ressent une solitude affreuse, étourdissante. Il le remarque, baisse les yeux, approche et s'agenouille. Elle voit les cheveux de Schulman se répandre sur ses épaules. De son doigt, il dessine une ligne descendant de son nombril jusqu'à sa hanche. Elle tente de sourire, mais ne réussit pas vraiment. Il la pousse délicatement sur le bord du lit et commence à descendre sa culotte. Elle soulève les fesses, serre les jambes et sent sa culotte glisser puis s'accrocher légèrement autour d'un de ses pieds. Elle se penche en arrière, ferme les yeux, le laisse écarter ses cuisses, sent ses baisers chauds sur le ventre, sur les hanches et vers l'aine. Elle halète et passe les doigts dans ses longs cheveux épais. Elle le veut à l'intérieur d'elle, le désir gronde dans son corps. Une chaleur enivrante la submerge. Son sexe est moite. Il vient sur elle. Elle écarte les jambes et s'entend soupirer quand il la pénètre enfin. Il chuchote quelque chose d'inaudible. Elle le tire vers elle et lorsqu'elle sent tout le poids de son corps, c'est comme si elle plongeait dans des eaux chaudes, comme si elle s'immergeait dans l'oubli.